Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite comme toujours la plus cordiale et bienvenue à Marcher vers le bien-être. Notre invité aujourd'hui en est à sa deuxième visite à notre émission et sans doute pas la dernière. Lors de l'épisode 26 du 28 mars dernier, Yannick Proulx nous avait entretenu de son projet de traverser le Canada à pied sur une période de 2 ans en suivant le sentier transcanadien. Tel que prévu, il quitte St. John's, Terre-Neuve, le 15 avril dernier et se lance à l'aventure. Ce qu'il n'avait pas prévu sont quelques événements marquants qui allaient changer le cours de sa vie. Au cours de la prochaine heure, Yannick nous racontera les beaux moments et les étapes un peu plus difficiles de son périple à ce jour. Yannick est accompagné en studio de sa conjointe Anne, qui nous présentera sa perspective de la mission de Yannick. Bonjour à vous deux et merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous raconter à votre façon cette longue marche d'une vie.
Bonjour, Monsieur Chagnon.
Bonjour, Monsieur Chagnon.
Bonjour à vous deux. J'ai aussi le grand plaisir d'accueillir en studio Michel O'Neill, notre serein pèlerin, qui a joué un rôle déterminant dans le cheminement de Yannick au cours de ces derniers mois. Bonjour, Michel, et merci aussi à vous d'avoir pris le temps pour cette conversation amicale autour du très beau projet de Yannick.
Oui, ben on verra s'il juge que ça a été déterminant ou pas. On va lui laisser le choix.
Je pense que oui, mais on a
quand même été en contact. On y reviendra durant l'émission, là, mais on est même apparu sur le site de Yannick comme étant des personnes inspirantes, vous et moi.
Bon, et voilà. Tout est dit. Alors, Yannick, avant de se lancer sur le sentier transcanadien, rappelez-nous un peu le but, la mission que vous vous êtes donnée pour cette grande aventure.
Le grand défi de traverser le Canada à pied par le sentier transcanadien, un voyage de 16 000 kilomètres environ. Là. J'ai vu sur le sentier en chemin que c'était plus autour de 14 000 et des poussières, mais on va faire un chiffron à 16 000.
C'est bon. Ça impressionne.
Ça avait commencé à 8 000, là, ça passait à 16 000, là, ça revient à 14 000.
C'est ça. C'est pour ça que je ne compte pas les chiffres. Hein. Donc, je ne mets pas de pression, puis un pas à la fois. Je vis les jour le jour avec le grand défi. Puis, le but de ce voyage-là était de mettre en pratique une théorie basée sur la pyramide de Maslow que j'appelle les Mass High Peak. Donc, je rajoute 3 autres pyramides. Notre côté financier, les autres humains et l'environnement.
Ça me fait penser que je ne suis pas vite, parce que je n'avais pas compris. Il y a comme un jeu de mots d'ailleurs. Maslow, qui est le fameux auteur de la pyramide des besoins, mais lui, c'est la Mass High.
Et voilà, Maslow, c'est bas.
Puis High, c'est haut, mais ça, je n'avais pas compris ça.
Je suis très subtil.
Moi, je ne suis pas vite.
Mais faites-vous-en pas, parce que c'est pas évident. J'essaie de parler de ma théorie sur les réseaux sociaux et autres. Vraiment pas facile, parce que c'est très profond et ça me l'amène beaucoup de réflexions. Donc, je vais vous dire, c'est un de mes plus grands défis de faire passer de mon message et de le faire comprendre. Mais les gens, normalement, s'intéressent beaucoup plus à l'exploit derrière ce voyage-là. Et jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Je suis en pause pour cet hiver, puis je suis très content d'être avec vous pour vous parler de ces 3 premières étapes de ce voyage.
Alors, parmi les buts, la vision, c'est de propager la vue, une vie peut-être plus simple, la simplicité, aller vers l'essentiel et tout. Hein? Si je résume bien, c'est à peu près
le message. Oui, c'est ça. Donc, l'objectif du message, c'est de revenir à la base et d'être conscient de notre impact, de nos décisions sur notre vie personnelle et sur l'ensemble de la population, de la planète et autres. Donc, parce que chaque décision qu'on prend dans notre vie, il y a un impact sur chacun de ces piliers-là, de cette théorie des Mass High Peak, et sur notre volet personnel et social.
Alors, on parlait du 15 avril de cette année, 2023. Oui. 15 avril, vous partez de St. John's, Terre-Neuve. Comment ça s'est passé? Comment ça a commencé? Comment on se sentait? Puis, parce que là, c'est vrai. Là, on va raconter votre voyage.
Oui, puis c'est même pas St. John's.
Je suis parti de Cape Spears, hein, le Cap d'Espoir.
Bon, d'accord.
Donc, 25...
pas loin de Saint-John.
Oui. C'est 25 kilomètres. Donc, c'est le bout, le, où ce qu'on, le fameux, là, j'ai juste en anglais, là, le lighthouse.
Le phare. Merci. Oui.
Avec le temps, je suis en train de devenir assimilé côté anglais. Je vais essayer de ne pas trop dire de mots anglais. Donc, je suis parti de Cape Spears, Cap d'Espoir, qui est 25 kilomètres, le bout le plus à l'est du Canada, avec le magnifique fort emblématique du Canada. Puis, j'ai marché jusqu'à Saint John et je suis allé voir un super beau spectacle le soir d'un musicien cubain dans un petit café. Après avoir manger au bon repas d'un restaurant coréen. Donc, un voyage très international.
Ça commence bien.
Ça commence très bien. Puis, des belles rencontres aussi. Quand j'ai rencontré à l'aéroport Kian, qui est une fille qui est née à Hong Kong, qui demeure, qui a grandi à Toronto. Et durant mon voyage, dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer ses parents à Markham, en Ontario. Donc, ça a bien parti le voyage. En plus, elle parlait français. Elle travaille pour le gouvernement fédéral, puis c'est elle qui donne les cours de français pour les employés du gouvernement. Mm-hmm. Donc, étant donné que je parle pas très bien anglais, c'était une personne ressource qui m'a aidé à me donner un peu plus confiance en moi pour pratiquer l'anglais. Puis étant donné que c'est une enseignante qui aide les anglophones à parler français, elle a une patience incroyable, une façon d'introduire, de mettre confiance les gens avec qui elle peut discuter, même si c'est pas sa langue première.
Donc vous avez fait vos premiers pas. Petit à petit, comme vous le dites. Quels sont rapidement le parcours, les villes?
Donc, j'ai commencé par la première portion qui est Terre-Neuve, qui est sur le Newfoundland Trails Way, qui est un ancien chemin de fer qui part de Saint John jusqu'à Port-au-Basque, qui est 888 kilomètres. Et là, j'ai eu une belle surprise, étant donné qu'on était en avril. Là, j'ai dû passer par une section qui avait encore beaucoup de neige, au-dessus de 8 pieds de neige. Donc, j'ai dû passer par l'autoroute, faire un petit détour et pour rejoindre Deer Lake. Deer Lake, je m'excuse. Deer Lake.
Et là, ça a été le traversier, j'imagine, jusqu'à...
Traversier jusqu'à...
En Nouvelle-Écosse.
Nouvelle-Écosse, oui. Martinet.
Oui. Donc, et vous avez poursuivi. Comment?
Puis marcher sur des anciennes emprises de chemin de fer. Des fois, c'est pavé, mais des fois, t'es dans la grosse garnotte. Hein, fait que c'est pas toujours facile.
Exact. C'était vraiment pas facile. Il y avait des sections que c'était asphalté, mais la majorité du temps, c'était des gros galets, des grosses roches, comme on les appelle, les roches de patates. C'était ça. Donc, c'était vraiment pas facile de marcher pour le dos, les chevilles, puis c'est là que j'ai eu mon premier défi de blessure parce que une chance que j'avais des bons souliers parce que ça a pu retenir ma cheville, mais rendu dans le coin de à la fin du Cap Breton, les blessures ont commencé à sortir et c'était vraiment douloureux là.
Alors, Nouvelle-Écosse, vous traversez un petit peu, la partie peut-être la plus étroite de la Nouvelle-Écosse pour aller au Nouveau-Brunswick. Et là, il s'est passé quelque chose.
J'ai frappé mon mur.
Oui.
Rendu à Woodstock.
Le premier mur, oui. Frapper le mur, oui.
Et
Décrivez l'expérience parce qu'on a tous frappé des murs dans la vie, soit physique ou autre, mais pour vous, comment ça s'est passé?
C'est le découragement. Puis plus qu'on avance, plus les difficultés embarquent, plus qu'on se remet en doute de tout ce qu'est-ce qu'on fait. Donc, quand on s'arrête, on réfléchit à le but initial et on remet tout en doute nos décisions. Comme par exemple, côté financier, ça coûte trop cher. Côté nourriture, je mange mal, je prends pas soin de ma santé. J'ai mal au dos, j'ai mal ci, j'ai mal là. Donc, au bout de la ligne... Tout est remis en question pour se justifier que notre ego embarque, pour se convaincre à soi-même que qu'est-ce qu'on fait, c'est pas bon. Parce qu'on broie du noir, on voit plus rien, puis on n'est plus capable d'avancer. Et là, le désespoir, j'ai parti de Cap d'Espoir, et là, le désespoir est revenu au galop.
Il faut dire que vous n'avez pas été chanceux sur la température. Durant toute cette première, je pense que c'était à peu près une cinquantaine de jours. Et je pense qu'il fait beau 4-5 jours. Puis le reste du temps, il faisait froid, il pleuvait. Fait que ça prend non seulement un bon équipement, mais un moral d'acier. Là. Puis vous marchiez beaucoup de kilomètres par jour aussi. Donc, vous étiez mis un peu dans des circonstances un peu limites.
C'était difficile, effectivement, parce que je me rappelle, Terre-Neuve, il a fait beau peut-être 4-5 jours d'affilée. Mm-hmm. J'ai rarement eu deux journées à la marche, deux jours de beau temps.
Oh.
Très difficile. Soit c'était gris. Sur le chemin, au mois d'avril, on est beaucoup plus au nord, hein, Terre-Neuve. Donc, ça prend plus... La végétation pousse un peu plus tard. Donc, avril, ici à Montréal, on commence à voir les bourgeons. Mais là, ça commence. Mais à Terre-Neuve, c'est encore de la neige. C'est encore brouillard. C'est la brume, la pluie. Donc, très difficile, des conditions. En plus que tout est gris. Le sentier est gris. La température, l'air, le ciel est gris. Donc, les arbres, c'est pas des grands arbres. Donc, c'est très dur sur le moral. Puis là, quand je suis arrivé Nouveau-Brunswick, c'était la même chose. Quand j'ai passé aussi à Nouvelle-Écosse, c'était très gris. Donc, une cinquantaine de jours dans la grisaille.
C'est pas des conditions optimales, disons.
Mais ce qui a aidé, c'est les rencontres. Les rencontres magiques sur le chemin.
Parlez-nous des rencontres et puis aussi le fait que vous me disiez que en fait, cette période vous a quand même appris à mesurer votre rythme, vous a appris la résilience, vous a appris toutes sortes de belles choses quand même si c'était difficile.
Ça a pris du temps avant que je m'en rende compte. C'est ma première expérience de longue randonnée, donc c'est intéressant que je m'embarque dans un long projet comme ça sur 16 000 km parce que c'est comme plusieurs petits voyages. Parce qu'au départ, on se rappelle, mon objectif, c'était de partir pendant 2 ans et ne plus jamais revenir à la maison. Puis...
Ben, pas plus jamais après, mais...
Non, ben, jusqu'à temps que je suis
arrivé. Anne, pas tellement ça.
Oui, j'ai vu Anne avec ses yeux, c'est comme...
mais sans arrêt, autrement dit, sans période de pause.
Sans période de pause, oui, merci de rectifier le tir. Donc, je voulais partir pendant les 2 ans sans revenir à la maison, puis vivre l'expérience dans chacun des villages, des villes que j'allais passer pour m'imprégner de la culture canadienne. Puis, quand j'ai frappé mon mur à Woodstock, il m'est arrivé une belle histoire, comme qu'il en est arrivé bien d'autres. J'étais en contact avec mon ancien beau-frère qui était camionneur. Puis il disait, quand je vais aller dans les Maritimes, je vais t'appeler. Puis là, quand j'ai décidé de retourner à la maison... Non, en fait, j'ai pas décidé de retourner à la maison. Mon objectif, vu étant donné qu'il annonçait de la pluie pendant 10 jours... Et là, M. O'Neill m'attendait chez les petits frères de la Croix quelques jours plus tard. J'ai décidé de prendre l'autobus pour me rendre jusque dans Charlevoix. Ouais. Et attendre que le mauvais temps passe, parce que ça n'avait aucun sens. Là, il faisait environ 5 degrés au mois de juin, avec la pluie, j'étais complètement trempé. Je dis, ben non, ça ne sert à rien que je marche dans des conditions comme ça. Je vais aller voir les amis en Charlevoix. Je vais aller rejoindre M. O'Neill, puis la communauté des petits frères de la Croix. On va passer du bon temps. Puis finalement, je marche vers l'arrêt d'autobus, vers la station d'autobus pour... acheter mon billet. Je reçois un appel de mon ancien beau-frère. Il me dit, t'es où? Je suis à Woodstock. Il dit, je suis là dans 45 minutes. Je suis pas pour vrai. Peux-tu me ramener à la maison? Ben, pas me ramener à la maison, mais est-ce que tu peux me ramener à Rivière-du-Loup? Il dit, ben, je peux te ramener chez vous. Si tu veux, je peux te ramener à Montréal.
Un beau-frère, quand même, ex-beau-frère quand même sympathique.
Oui, très, on a gardé un bon contact. Puis, j'ai réservé une chambre, j'ai pris un bain toute la soirée. J'étais complètement frigorifié. J'ai resté dans la chambre toute la soirée. Le lendemain matin, il s'est arrêté sur le bord de la route. Je suis embarqué dans le camion, puis on a roulé jusqu'à Montréal. C'est un temps record. Et Anne est venue me chercher chez ma sœur à la Chine.
Alors, Anne, comment on réagit à ce premier mur, à la visite de ce monsieur qui s'appelle Yannick?
Oui, il n'était pas supposé revenir avant 2 ans.
Oui, c'est ça, retour à la maison. C'est sûr que j'étais super contente. de le voir, mais en même temps, est-ce que c'était la bonne décision, tu sais, tout son projet? C'est beaucoup de questions, là. Tu sais, oui, moi, je suis contente, mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'une petite pause? Finalement, il a repris, 5 jours plus tard, à peu près. Puis j'étais contente qu'il reparte. Pas parce que je voulais plus l'avoir dans la maison, mais juste pour qu'il continue vraiment son projet. Tu sais, des fois, il faut faire un pas en arrière pour mieux avancer, pour mieux continuer. Puis je pense qu'il avait besoin d'un petit temps de pause de température pour continuer.
Parce que dans votre tête, il était parti pour 2 ans. Là.
Oui, il était parti pour 2 ans.
Pas refait votre vie, mais vous étiez préparé à ce qu'il soit parti pendant 2 ans, à peu près. Là.
Bien, je m'étais préparée, oui et non. En même temps, comment on se prépare pour ça, je ne sais pas vraiment. Je me suis dit au jour le jour, mais on se parle à tous les jours. Donc, oui, il n'était pas là, mais il était là quand même.
Parce que vous aviez des communications quand même, là.
Oui, tous les jours, matin et soir.
À peu près 2 fois par jour, là.
Oui. C'est bon, parce qu'on s'encourage, on se parle, on partage. Mais ce n'est pas la présence physique, bien sûr.
Non.
Donc, on s'en va à Charlevoix, c'est ça?
C'est ça. Donc, je suis retourné chez moi. J'ai refait mes bagages, j'ai lavé mes vêtements, j'ai repris l'autobus jusqu'à Québec. Mon ami Gérald est venu me chercher, me ramener chez lui et me ramener au monastère. Et là, c'est là que j'ai rencontré Michel, la première fois la connaissance.
C'est la première fois. Alors, là où vous avez défait le mur, hein, pour ainsi dire.
Pas complètement. Non, parce que en fait, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, moi, j'avais le monastère des Petits Frères de la Croix, c'est un endroit où je vais travailler comme bénévole. Là, et j'ai écrit l'histoire de leur communauté. Donc, quand j'ai vu que Yannick, sur les réseaux sociaux, disait, si vous voulez soit m'accueillir chez vous, etc., puis quand j'ai compris que le sentier transcanadien, si on le suit à la lettre, il passe, il prend la traversée de Charlevoix. Donc, il passe dans le bois. Mais Yannick avait déjà fait cette expérience-là en s'entraînant l'année d'avant. Alors, il avait dit, je ne passerai pas dans le bois, je vais passer dans la civilisation de Charlevoix par rapport à ça. Mais j'ai dit, à ce moment-là, tu devrais peut-être arrêter chez les Petits Frères de la Croix, parce que c'est un endroit intéressant, puis c'est sur ton chemin. Ça n'aurait pas été sur ton chemin si tu avais été dans le bois. Là. Mais vu que c'était sur le chemin, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en personne, finalement. Ça a donné que moi, j'étais dans ma période de bénévole de ce mois-là chez les Petits Frères de la Croix. Puis ça, je pense que ça a été un moment assez intéressant pour Yannick aussi. Là.
C'était un beau moment que j'ai appris une belle grande leçon, parce qu'il s'est passé plein de belles choses, malgré la pluie. Là, il s'est passé des beaux moments sur le sentier, dans ma première étape dans les Maritimes, qui ont été assez troublante, parce que quand on marche longtemps, on libère notre égo, on se libère de notre quotidien et on devient beaucoup plus alerte aux petits signes, aux petits gâteaux de la vie, qu'on pourrait appeler ça comme ça. Et ça devient quand même assez troublant quand on n'est pas habitué de recevoir de l'abondance positive comme ça, de l'entraide des gens, de la générosité, des gens que tu ne connais pas, qui t'invite à aller coucher chez eux. Puis à un moment donné, ça vient beaucoup. Puis dans ta tête, tu poses la question, pourquoi moi? Pourquoi les gens sont prêts à m'aider comme ça? Puis pourquoi les gens sont si généreux avec moi comme ça? Puis là, tu viens poser plein de questions qui sont assez intéressantes. Puis je ne veux pas embarquer toutes dans les détails, mais ça pourrait être très long. Mais j'ai eu quand même un petit choc. Puis c'est là avec Michel, puis d'autres personnes aussi, là, qui Éric Laliberté, qui m'a beaucoup aidé à comprendre c'était quoi le chemin spirituel derrière la marche. Puis quand j'étais au monastère, j'ai eu la chance de discuter avec le petit frère Jean-François. Puis je lui racontais toutes les belles surprises qui se présentaient à moi, comme par exemple, à un moment donné, à l'île du Prince-Édouard, j'avais besoin de changer mes bottes. Puis mes bottes étaient quand même bonnes encore pour plusieurs kilomètres. Et il y avait un magasin de plein air, pas trop loin. Fait que là, je me suis dit, je vais me rendre jusqu'à l'intersection. Le lendemain, si je décide d'acheter mes bottes, mes nouveaux souliers pour avoir quelque chose de plus confortable, plus léger, mais je vais pouvoir continuer un petit peu plus loin, puis redescendre la route, ça, je vais pouvoir rejoindre le magasin. Et le lendemain matin, j'avais hébergé chez une famille, j'avais mis ma tante dans leur coin. En fait, ils m'avaient donné l'accès à leur autobus voyageur. J'avais dormi dans l'autobus voyageur.
Oh,
et
oui.
Le lendemain matin, leur jeune fille m'est arrivée avec de l'argent. Elle me donne de l'argent. Elle dit, tiens, c'est pour toi. Mon père aimerait savoir tes infos. Je dis, non, c'est correct. Puis je me suis rappelé ce qu'un moine bouddhiste m'avait déjà dit, qui traversait le Canada aussi, Walter, que j'avais rencontré sur le petit train du Nord. Puis qu'on avait hébergé, parce qu'on s'était dit, Anne puis moi, regarde, on va offrir aux autres qu'est-ce qu'on veut se faire recevoir, tu sais, en échange. Puis j'ai accepté. Walter m'avait dit, la chose la plus difficile en tant que marcheur, c'est d'accepter la générosité des autres. Parce que notre ego veut être autonome, veut être capable de s'organiser. Et je me suis rappelé cette phrase-là et finalement, j'ai accepté l'argent que la famille voulait m'offrir. Je n'ai pas regardé le montant. J'ai commencé ma journée, j'ai regardé et il y avait 150 $. C'était la moitié du montant de la paire de souliers que je voulais me procurer.
Alors, le signe était là.
Le signe était là. Mais des histoires comme ça, là, c'était au moins aux deux jours.
Et il y a une certaine dame qui s'appelle Carole, je pense, qui vous a donné un message de providence. La providence.
Mais oui, mais c'est ça. La providence, quand Jean-François, j'en avais parlé avec...
C'est Jean-Frédéric.
Jean-Frédéric, oui, merci. Jean-Frédéric, oui. Je m'excuse, il va nous écouter, c'est certain. Jean-Frédéric. Quand j'avais rencontré Jean-Frédéric, il m'avait dit, mais est-ce que tu vis? C'est la providence. Donc, c'est un mot que je connaissais, mais je ne connaissais pas nécessairement sa signification profonde, spirituelle.
En anglais, quand on est sur le chemin de Compostelle, les gens disent « the Camino provides ».
Ah oui.
Le chemin te fournit ce dont tu as besoin. Là.
Puis c'est exactement ça qui s'est passé. Puis jusqu'à temps que je termine mon étape en Ontario, et ça l'a... Ce qu'il m'a dit, ça a complètement changé ma façon de voir les choses sur l'acceptation, d'accepter la générosité des gens. Il m'a dit, regarde, si les gens me le donnent, c'est parce que j'en ai besoin. Accepte, remercie la vie et c'est tout. Comme qu'il m'avait dit Jean-Frédéric, tu accueilles, parce que j'avais demandé comment faire pour l'accueillir. Il dit, mais tu n'acceptes rien, tu remets tout à Dieu. Et ça change toute la façon de voir les choses parce que quelqu'un me donne quelque chose, mais m'accueille chez lui, me refait un repas, me donne de l'argent, peu importe. Mais merci, ça va m'être utile, mais je redonne après. Je ne le garde pas.
Alors, cette pause a duré 4-5 jours. Anne, comment vous avez, vécu cette pause?
Bien, c'est sûr que à chaque fois qu'il revient à la maison, c'est une adaptation pour les deux. Ça prend quelques jours, mais j'étais super contente de l'avoir avec moi, c'est sûr, mais je savais qu'il repartirait.
Et après la pause de Charlevoix, c'était un homme nouveau que vous aviez, là, ou presque, non?
On va passer à une autre question.
Je ne sais pas.
Ben, d'ailleurs, on va passer une petite pause musicale, puis on va poursuivre le trajet, d'accord?
Oui, bon. Parce que là, ça va chauffer.
Alors, nous sommes toujours en compagnie de Yannick, Anne et Michel. Nous parlons de ce merveilleux trajet, projet de traverser le Canada à pied sur le sentier transcanadien. Phase 2, nous repartons de Baie-Saint-Paul, cette fois le 4 juillet. Alors, on s'en va toujours vers l'ouest. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est déroulé, cette deuxième phase réénergisée? Voilà.
Oui, réénergisée, parce que quand j'ai quitté le monastère, j'avais frappé un autre mur, hein, parce qu'on en parlait de Carole tantôt, qui m'avait hébergé aux éboulements. Puis, elle m'avait laissé marcher jusqu'à l'église de Baie-Saint-Paul, sans mon sac à dos. Elle dit, appelle-moi quand tu vas arriver à l'église, je vais t'apporter ton sac à dos. Puis... Elle est venue me rejoindre, me donne mon sac à dos, puis elle me dit, tu sais, Yannick, t'as rien à prouver à personne. T'as l'air fatigué. Repose-toi. Puis au monastère, chaque fois que je me réveillais le matin, j'étais toujours fatigué. J'étais pas capable de récupérer. Et c'est là que j'avais décidé de complètement arrêter. J'étais retourné chez moi encore une autre fois. Et là, je me sentais comme une voiture qui est en train de se faire monter sur un circuit d'assemblage. Puis,
ah oui, oui.
Je me suis dit, non, regarde, je me sens incomplet. Je dois repartir. Je suis reparti le 4 juillet, le matin. Mm-hmm. Donc, en compagnie encore avec mon ami Gérald et Marjo. Et j'ai fait le sentier, me suis rendu au sentier des Caps, tout ce beau coin-là qui était en nature, ça fait du bien. Mais là, ce qui est intéressant au Québec, puis que j'avais vraiment hâte de faire, c'est que quand j'avais commencé mon voyage, j'avais fait un document sur Google. J'avais invité les gens à m'inviter chez eux. Mm-hmm. Et j'avais au Québec environ une cinquantaine d'invitations de gens qui voulaient m'accueillir chez eux, qui demeuraient le long du sentier. Donc, j'ai terminé, je me suis rendu jusqu'à Ottawa. Mm-hmm. J'ai terminé le 8.
À Gatineau.
Oui, bien au pont, à Gatineau, ouais,
sur le pont.
Sur le pont Alexandra.
C'est ça, oui. Ouais. Oui.
Donc, j'ai terminé le 8 août. Entre dans ces journées-là, c'était assez palpitant et vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont accompagné, dont Michel qui m'a accompagné.
On a marché un bout après après le sentier des Caps, on arrive sur la côte de Beaupré. Donc,
oui.
Moi, j'ai eu l'occasion de marcher une journée avec Yannick et Louise.
Louise, oui.
Qui était venue marcher avec nous. Et donc, c'est ça. Et dans le coin de Montréal, ben, Denis a marché un bout aussi avec Yannick. Là. Oui. Donc, ça nous a permis d'entrer au palmarès des personnes inspirantes sur le site de Denis.
On a jasé un peu aussi. Ouais.
Effectivement, parce que pour faire un peu continuer sur cette lignée-là, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens. Hein. C'était une trentaine de familles qui m'ont accueilli chez eux. Puis beaucoup de gens très spirituels, très ouverts. Et ceux qui m'ont marqué le plus, c'est les personnes. Bon, est-ce qu'on peut dire ça? On va dire les retraités.
Les petits vieux.
Qui sont très en forme, les gens,
oui,
comme vous deux.
Je l'attendais.
C'est incroyable. Ils sont capables de marcher des kilomètres et des kilomètres. Et c'est peut-être parce que vous êtes retraité, vous avez plus de temps à votre âge.
Oui, c'est un biais de sélection. Ce n'est pas tous les retraités qui ont le degré de forme qu'on peut avoir. Ce n'est pas tout le monde qui marche chez 10 000 pas par jour.
Mais est-ce que... j'ai rencontré une femme, Lucie, sur le petit train du Nord, qui, elle travaillait dans un... était haut placée pour le ministère de la Santé. Mm-hmm. Et après un burn-out, elle s'est rendue compte qu'il fallait qu'elle prenne soin d'elle. Puis elle s'est mise à la marche. Elle a fait Compostelle. Et la marche, aujourd'hui, s'est rendue essentielle dans sa vie. Là. Elle ne peut pas passer une journée sans marcher.
Voilà.
Et c'est ce qui l'a tenu... qui l'a ramené là, de son burn-out. C'est ça qui l'a aidé aussi à être plus en forme, à prendre des meilleures habitudes de vie. On pourrait faire n'importe quel sport. L'activité physique, ça permet à être beaucoup plus actif, à avoir une meilleure vitalité, avoir travaillé le cerveau, puis avoir des meilleures aptitudes, puis garder les acquis en vieillissant. Mm-hmm. Puis vous trois, vous avez été des modèles que je cite tout le monde que je rencontre, de motivation, offrir de la motivation aux gens, parce que des gens plus jeunes que moi, trentaine, vingtaine, qui ne bougent pas, ça leur a des répercussions plus tard sur la santé, puis ça leur a des répercussions sur la société.
Donc, si je reviens à la bonté, l'acceptation sur ce parcours, donc au Québec jusqu'à Gatineau, il y a plusieurs personnes qui vous ont offert des choses. Je pense à Jacques et Madeleine, par exemple, qui vous ont entretenu un peu.
Oui, ça, c'est une de mes plus belles histoires. Après votre rencontre...
Ah, c'est sûr, c'est sûr.
Sur le petit train du Nord, l'animateur de radio, CKVL... Non, pas CKVL... CFLO, oui, c'est la CFLO à Mont-Laurier, qui avait parlé de moi, que je marchais sur le petit train du Nord et que j'allais atteindre Mont-Laurier vers 19h30. Et ce beau petit couple charmant sont venus à ma rencontre sur le petit train du Nord pour m'inviter à dormir chez eux.
Mmh.
Donc, je marchais sur le petit train, je vois un couple, ils me regardent, je leur dis bonjour, comme je dis bonjour à tout le monde quand je les croise. Ils me disent, c'est-tu toi qui traverses le Canada à pied? Oui, c'est moi. Ah, mais on est venu à ta rencontre parce qu'on aimerait ça t'accueillir chez nous si t'as pas de place ou rester en soirée. Donc, je leur ai dit, mais je devrais être là vers 19h30 à la gare de Mont-Laurier. Puis, ils m'ont proposé de m'embarquer tout de suite, mais j'ai dit non, c'est pas vrai. Donc, j'ai marché jusqu'à la gare, 19h30. Je suis arrivé là dans les heures prévues. Puis, il y avait André aussi, l'animateur de CFLO, qui était là, oui, qui m'a accueilli pour parler, faire une petite pré-entrevue pour son émission du matin. Oui. Et le lendemain matin, je suis allé le rencontrer à la station de radio pour parler de mon voyage.
Alors là, vous avez pris l'habitude d'accepter la bonté, la providence. Là, ça devient tout naturel.
Ça devient naturel, mais toujours dans la gratitude et la reconnaissance. Parce que ça, c'est très important, parce qu'à un moment donné, si on accepte tout, mais on ne redonne pas, c'est notre ego qui accepte. T'sais. Puis là, ça fait complètement l'effet contraire de « tout nous est dû parce qu'on fait un exploit ». Mais non, là, ça devient un petit peu contradictoire. Là, donc c'est...
Il y a une anecdote qui m'a fait sourire un peu parce que vous avez rencontré des gens, des campeurs à L'Eau Québec, L-O-W, L'Eau Québec.
Oui.
Et aussitôt que vous avez mentionné le nom, ben, c'est là où était situé, il l'est peut-être encore, le camp scout où on allait tous les étés. Alors, L'Eau Québec, Farrelton et tout ça. Et là, une autre belle rencontre.
Oui, j'ai oublié leur nom, malheureusement, mais c'était un couple. Je m'étais installé dans le centre touristique, une belle bâtisse toute neuve avec toilette et l'eau disponible. J'avais dormi sur le banc qui est dans le centre, qui est ouvert 24 heures. Et un couple est arrivé, puis on a commencé à jaser avec eux, puis ils sont partis. Ils sont revenus. Mm-hmm. Ils me disaient, on oublie de t'offrir. On arrive de camping, puis on a la nourriture pour les fins, il est fou. As-tu besoin de quelque chose? Je dis, non, je finis ma randonnée, ma portion dans quelques jours, donc je suis correct, j'ai pas besoin de rien. Il a dit, ben, on a des sucreries pour toi si tu veux. Je dis, mais là, là tu parles. Qu'est-ce que vous avez? On a des Mi-West, la réglisse des bonbons. Oh, ok, là, ça rentre dans ma palette.
mais j'ai peut-être la question qui tue, ou à peu près. Le bout entre Woodstock et finalement Charlevoix,
oui.
Vous ne l'avez pas marché?
Non.
Moi, quand j'ai marché sur le chemin de Compostelle, la première fois, j'étais d'une... je ne sais pas si c'est une étroitesse d'esprit ou une détermination, mais je ne voulais pas manquer un pas. Ça arrive des fois que les gens où je dormais viennent te chercher parce que c'est un peu loin en auto par rapport à ça, puis disent « Ah, ben là, il y a un petit raccourci, je peux t'aller te remettre. » Non, vous m'amenez, où est-ce que j'ai marché? Puis effectivement, la première fois que j'ai marché sur le chemin de Compostelle, j'ai pas perdu un pas. La deuxième fois, je pense peut-être que j'étais un peu plus... tolérant ou par rapport à ça. Il y a un bout du chemin que j'ai pas fait, parce que je l'avais déjà fait. J'étais parti de Paris et puis j'avais marché sur le plat longtemps. Puis c'est le bout de la Meseta. Là, puis les gens qui ont déjà marché sur le chemin de Compostelle, c'est comment de Burgos puis les hommes, ou à peu près. Puis c'est un bout qui est très plat. Et cette fois-là, je l'ai fait en train. Et si j'avais été dans l'état d'esprit de ma première fois, là, je me serais renié ou à peu près. Fait que j'étais curieux de voir, effectivement, par rapport à ce bout-là, est-ce que est-ce qu'on a un sentiment que...
de culpabilité.
Ouais, ou pas du tout. Que c'est tout simplement, puis comme je sais, vous n'avez pas nécessairement toujours marché exactement sur le sentier transcanadien là, par rapport à ça. Fait que j'étais curieux de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça.
Le Nouveau-Brunswick, j'ai sauté beaucoup de sections parce qu'il y avait les feux de forêt, donc tout ce qui est la Big Fundy, je ne l'ai pas fait. Mm-hmm. Et ça, c'est probablement mes plus grands regrets. Je ne vais pas dire regrets, déception de ne pas l'avoir fait parce que c'est un des plus beaux parcs là, à l'est du Canada et que j'aimerais refaire. Donc, mon objectif comme autre projet, ce serait probablement de refaire le Nouveau-Brunswick au complet par le sentier transcanadien parce qu'il y a trop de sections que j'ai pas eu la chance de faire, comme passer à Saint John, entre autres, parce que quand je suis arrivé à Moncton, j'ai pris la route directement à Fredericton. qui m'a pris 5 jours. Mm-hmm. Mais si je prenais la route pour passer par Bitfundy et arriver à Fredericton, c'était 2 semaines que ça prend. Ça prend environ 2 semaines. C'est beaucoup plus long. Donc, fait je vais que, refaire...
Mais en même temps, ces adaptations-là, c'est des choses que vous trouvez tout à fait correctes, dans le fond. Ça vous... puis je dis, mon but n'est pas de vous dire non, c'est pas correct. Là, mais c'est parce qu'on peut... Souvent, quand on marche, on est pris dans ces dilemmes. Hein, oui. De dire, là, bon, ben là, est-ce que j'y vais pas, plus court, moins court. En Ontario, vous avez écrit aussi, vous aviez un peu ce même dilemme-là. Est-ce que je prends la route longue, oui. La route courte par rapport à ça? Fait que c'est quoi votre sentiment maintenant par rapport à ces décisions-là?
C'est la flexibilité, à savoir qu'est-ce qui est le mieux, parce que le sentier, oui, mon objectif, c'est de le faire, mais je veux que ça soit agréable et intéressant aussi, parce que le sentier passe pas nécessairement par tous les endroits qui sont les plus agréables à marcher. Beaucoup de champs de maïs, beaucoup de champs de patates, oui. De pommes de terre. Oui. Puis le chemin pour aller... au Nouveau-Brunswick, c'est un des plus beaux chemins, mais là, comme le grand dilemme, c'est que je voulais pas me faire arrêter par un garde-parc qui me dise « Oh non, tu dois évacuer parce que il y a des incendies puis on ferme le parc. » Ça leur a été beaucoup trop d'efforts pour frapper un autre mur, de dire « Non, tu peux pas y aller. » Donc, je me suis dit « Je prends pas de chance. Je vais traverser. » Puis aussi, la fatigue commençait à se faire sentir.
Oui, parce que vous étiez pas reposant au début, là, des 40, même 50 kilomètres par jour. Ça rentre dans le corps.
C'était l'objectif. Je me sentais comme un loup à la recherche de nourriture. C'est pour ça que je faisais beaucoup de kilométrage au début pour marcher d'un village à l'autre. Donc, les distances sont quand même assez éloignées.
On a fait le Québec le 8 août. Arrêt à Gatineau sur le fameux pont Alexandra qui relie Ottawa et Hull ou Gatineau. Et pourquoi l'arrêt à ce moment-là?
Parce que quand j'étais au monastère, j'avais réservé une fin de semaine avec ma douce, un week-end en amoureux dans leur magnifique chalet qui était pour la fin...
Fin août,
c'est ça.
23, 24, quelque chose comme ça.
Donc, je me suis dit, ça va me faire une petite 3 semaines de pause, aller passer du temps avec ma chérie, puis de reprendre après ça, 1er septembre, à partir de Gatineau, Ottawa.
D'accord. Alors, on reprend le 1er septembre, départ plutôt du même pont Alexandra, et première journée chez Roger et Jeanne.
Oui.
Mon frère et ma belle-sœur.
Quel couple charmant!
Ouais, c'est dur de dire le contraire.
On voit que la bonté, c'est de famille. Donc, oui, j'ai fait une belle rencontre avec eux. Et heureusement, parce que je suis partenaire. En fait, on a des partenaires sur un groupe. Je suis créateur de contenu sur le groupe Passionné de rando. Mm-hmm. Qui est une belle communauté de plein air. Et on a un partenaire qui est Accu, qui est des bottes de randonnée. Et j'avais commandé des bottes. Et j'ai fait une gaffe. J'ai commandé une paire de 10,5 et une paire de 11. J'ai essayé les 10,5. Je me suis dit, c'est un peu grand. Et finalement, je me suis rendu compte, après une journée, une vieille blessure a commencé à apparaître. Et chez Roger et Jeanne, on s'est rendu compte le lendemain matin que j'avais pris des 10,5 UK. Donc, ça donnait des 11 américains.
Et voilà pourquoi.
Donc, c'était beaucoup trop grand. Donc, ils ont été assez gentils pour... aller magasiner avec moi une nouvelle paire de souliers. Donc, j'ai changé les souliers. Mais là, la blessure était encore assez présente. Oui. Une bonne inflammation du talus, ce qui empêche une mauvaise flexibilité de la cheville. Puis, c'est très douloureux. Et là, j'avais une famille le lendemain qui m'attendait parce que j'utilise beaucoup l'application Warm Shower, qui est un regroupement de personnes qui font du cyclotourisme et qui peuvent s'inviter chez l'un et chez les autres. Puis, la madame qui m'a accueilli chez elle, elle venait de se faire opérer. Puis, elle avait des anti-inflammatoires assez puissants, merci, de prescription qui étaient un peu mieux que Tylenol ou Advil. Donc, elle m'en a donné quelques-unes et c'était... normalement, faut pas faire ça, là. Faites pas ça à la maison. Mais j'avais assez mal pour... Je suis tellement pas le genre de gars qui va prendre des médicaments. Mais j'avais vraiment mal. Je disais, OK, non, j'ai rien à perdre. Au pire, j'aurais mal au rein, au foie, ou peu importe. Je vais boire beaucoup d'eau, puis...
Ça l'a passé.
Oui. Deux jours après, j'avais plus mal du tout. Puis j'ai eu peur, parce que quand j'avais eu cette blessure-là, ça a pris un mois avant de vraiment guérir.
Mais les pieds, c'est important quand on marche. Oh. Il est arrivé une anecdote de chaussures comme ça. Moi, j'avais quand la première fois que j'ai fait le chemin de Compostelle, ma première paire de bottes était rendue très usée quand je suis arrivé à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, je me suis dit, je vais m'acheter d'autres bottes par rapport à ça. Puis, sans trop m'en rendre compte, il y avait un pied, ça faisait bien, l'autre pied, ça faisait pas bien. Puis, je me suis rendu compte, à un moment donné, après 3-4 jours, qu'il y avait une des chaussures que c'était comme, mettons, un 10, puis l'autre, c'était un 10 et demi. Fait que là, il ne m'avait pas vendu la paire avec les deux. Fait que là, c'était des chaussures qui ont été ruinées très rapidement après ça. Fait que alors, des chaussures importantes.
Oui, absolument. Yannick, de belles rencontres encore en Ontario. On parlait un petit peu plus tôt dans l'émission que vous avez rencontré les parents de cette femme que vous avez rencontrée à Terre-Neuve.
Oui.
Une coïncidence incroyable. Et il y a ce fameux John qui vous a offert un repas à un moment donné. Puis il y avait un petit billet de banque qui se promenait. C'est quoi?
Oui, j'étais au Subway, à Canada. Non, pas à Canada. Canada. Canada.
Peut-être, oui.
Ouais, à Canada. Oui. Puis, avec mon gros sac à dos orange, donc les gens, ça apporte beaucoup à curiosité de qu'est-ce que tu fais comme voyage. Et John me demande la question, puis je lui raconte que je marche à travers le Canada, puis que je fais traverser le sentier transcanadien. Il me tend 50$. Il dit, tiens, c'est pour toi. Il dit, c'est quoi ta cause? Là, je raconte ma théorie des Maasai Peak. Il dit, est-ce que tu peux me redonner mon 50$, s'il vous plaît? OK, je redonne. Il me donne un 100$. Il dit, j'adore ta théorie, puis je t'encourage. Et là, on avait pris une photo ensemble. Il m'avait donné son numéro de téléphone. Je lui ai envoyé par texto la photo. Lui a quitté, mais je suis resté là pour manger. Et il m'envoie un message une 30 minutes plus tard. Il dit, est-ce que tu cherches un travail? Je dis, ben là, je marche. Il dit, parce que j'ai besoin d'aide pour travailler sur ma maison. Là, je suis en train de construire mon balcon, puis j'ai besoin d'aide. Je dis, ah, ben, je peux prendre une demi-journée de congé, puis j'ai une petite journée. Si vous êtes prêt à venir me reconduire sur le chemin, pas de problème. Il dit, parfait, je viens te chercher dans 2 heures. Donc, j'ai attendu, il est venu me chercher, je suis allé chez lui, puis je l'ai aidé le lendemain matin à travailler sur son terrain, puis son balcon, puis il m'a ramené sur le sentier vers midi. Oui. Puis là, c'est là qu'il m'a fait un gros déjeuner, un gros beefsteak. Moi qui étais végétarien avant de partir, c'est fini le végétarisme. Il m'a préparé un gros beefsteak, 2 pouces d'épais avec des œufs puis du bacon. J'ai pas eu faim avant le soir venu. Et donc, c'était une belle rencontre. Puis il m'a donné plein de conseils sur le côté philanthropique de ma marche et autres.
Donc, il y a eu plusieurs belles rencontres comme ça. Il y a une anecdote qui me fascine parce que vous parlez de simplicité dans la vie et vous avez rencontré des Mennonites, en fait, qui est un peu symbolique, en fait, de la vie simple ou la simplicité volontaire. Qu'est-ce qui s'est passé avec eux?
Bien, eux, en fait, c'est une belle histoire encore de tout ce que tu as besoin sur le chemin, ça l'apparaît. Anne, elle m'envoie un message, elle me dit, j'espère que je suis dans le coin de Erin. Elle me dit, j'espère que tu vas être en sécurité ce soir. Donc là, il était pour environ 16 heures. Je me lève la tête, je vois une caravane, une roulotte. Donc je dis, c'est là que je dors. En même temps que je reçois le message de Anne qui me dit que j'espère que tu vas être en sécurité ce soir. Donc je dis, c'est là que je dors. Donc je suis allé sur le terrain, c'était une grosse ferme. Puis le matin même, je m'étais mis comme objectif, j'ai dit, je veux rencontrer une famille de religion mennonite. Et là, je les vois, c'était des mennonites. Mais j'avais des bonnes chances de tomber sur une famille mennonite parce que dans cette région-là, il y en a beaucoup.
Il y en a plusieurs, oui.
Donc, je suis allé les rencontrer, puis c'était... leur nom m'échappe, mais j'ai eu la chance de passer 2 jours en leur compagnie. Mm-hmm. C'est C'était assez spécial de voir leur culture. Eux n'utilisent aucune technologie. Ils peuvent utiliser la voiture pour des fins de travail. Ils ont un téléphone cellulaire, mais ils n'ont pas le droit d'aller sur Internet, pas le droit de réseaux sociaux, pas le droit de des technologies. C'est juste fait pour travailler.
Le téléphone, oui.
C'est fait pour le téléphone, pour le travail.
Oui.
C'est tout.
Oui.
Mais ils travaillent très, très fort. C'est pas des gens très riches. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que tout ce qu'ils mangeaient, c'est des restes et qui partageaient leurs restes pour la famille, mais avec une personne de plus. Donc, ils m'ont tout donné ce qu'il y avait. Hmm. Puis, ils m'ont accueilli comme si je faisais partie des leurs. Hein. Donc, j'ai été vraiment bien reçu. C'était un de mes moments marquants de mon voyage dans la section de l'Ontario.
Alors, on termine notre petit périple en Ontario le 8 octobre. Rapidement, les leçons après deux, trois étapes là, de Terre-Neuve à l'Ontario?
La résilience.
La résilience.
Beaucoup la résilience, parce que c'est important d'avoir la souplesse de se pardonner quand on saute des bouts de chemin. Mm-hmm. D'être capable de vivre avec les éléments qui arrivent au fur et à mesure, que ça fasse notre affaire ou que ça fasse pas notre affaire. La météo joue vraiment beaucoup sur cette résilience-là, parce que en Ontario, j'étais vraiment chanceux. Hein. Sur 35 jours en Ontario, il y a eu une journée de pluie. Et là, la pluie commençait pour plusieurs jours d'affilée.
Oui.
Et là, j'ai
oui.
su m'arrêter. Je me suis dit, non. Je vais arrêter. J'ai la chance d'avoir un transport, de pouvoir me rendre à la Chine en camion. Ça va être plus facile si j'arrête maintenant. En plus, j'aurai pas la pluie. Puis, mon voyage est beaucoup plus agréable. Puis là, je peux venir me reposer. J'ai d'autres projets qui s'est greffé à tout ça. Donc, ça vient plus motivant à faire comme expérience, tout en vivant les défis que le sentier me lance.
Alors, le 8 octobre, c'est le retour à la maison et, oups, ça a été un peu difficile. Et là, je vais me retourner tout à l'heure vers Anne pour voir sa réaction, mais on prend une autre courte pause musicale. Nous voici de retour avec Yannick, Anne et Michel. Ben oui, le retour à la maison, oui, c'est pas évident après avoir passé toutes ces semaines, ces mois. Comment ça s'est passé là? C'est pas facile.
C'est pas facile. Encore deux semaines que je suis revenu, puis que j'ai pas défait tout mon sac encore. Tous mes équipements sont sur le lit de la chambre d'amis, puis on dirait que c'est comme en veille. Là. Ils attendent de repartir.
Et puis Anne, comment on prend ça, le lion dans la cage?
Le retour à la maison. Ben c'est sûr que c'est toujours difficile. Pour moi, même si j'ai un petit temps d'adaptation, comme je disais plus tôt, parce que, tu sais, j'ai resté 5 semaines seule, bien entourée, là, je veux dire, tu sais, oui. à vivre sans lui. Et puis, à chaque fois qu'il revient, il y a tout le temps un petit down du retour, puis ça prend à peu près 1-2 semaines avant pas qu'il renaît de ses cendres, mais qu'il s'adapte.
Que je revienne à la vie normale.
C'est exactement, oui.
Et c'est quoi la vie normale?
C'est ça. C'est ça la réalité, de voir la perspective du marcheur pèlerin, la marche pèlerine ou des aventures de longue durée, et de voir comment qu'on vit au quotidien dans cette réalité-là de la vie humaine, du boulot 9 à 5 et de tous les aléas de la vie. Là.
Oui, parce que c'est difficile aussi de le communiquer. Et puis, il y a des exemples qu'on connaît. Bernard Olivier, par exemple, on le cite souvent à l'émission, il était journaliste en France, c'est la retraite, ça a été très dur. Son épouse décède probablement au même moment et il se posait la question, je fais quoi dans la vie? Il va sur Compostelle, décide ensuite de marcher marcher la route de la soie, donc qui est quand même 10-12 000 kilomètres. Et en revenant, il dit, je vais en parler, je vais l'expliquer à tout le monde, ma famille et tout. Puis bon, pour la famille, c'était bon, ben, il revient d'un long voyage et ça dure 5 minutes, 10 minutes. Et c'est comme si on n'arrive pas à franchir cet écran ou cet autre mur pour communiquer, justement. Et ça arrive à plusieurs personnes dans votre cas, je pense.
Puis c'est ça qui est arrivé. Et je savais qu'un jour ou un autre, j'allais frapper ce autre mur-là de retour à la réalité.
Mais on était tellement stimulés pendant cette période que...
Exactement, parce que j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré des gens qui avaient des sujets... diverses, des cultures différentes. Puis, de revenir à la maison, Anne, elle savait déjà toutes mes histoires, mes amis aussi. Donc, j'avais pas rien à raconter ou je connais des histoires d'Anne, donc j'avais pas à écouter nécessairement, rencontrer des nouvelles personnes. Donc, d'être toujours dans ces stimuli-là, ça l'emmène quelque chose de beau et d'intéressant, mais qu'on revient à la réalité. On voit que c'est une autre adaptation, une autre façon de vivre au quotidien.
Mais en même temps, à peu près tous les gens qui ont marché assez longtemps, quand le retour arrive, on frappe un peu ce dilemme-là de comment se réinsérer dans un quotidien qu'on a quitté. Des fois, ça fait l'image que moi j'utilisais souvent, c'est comme un bateau qui passe dans l'eau, qui laisse un sillon, mais après le sillon s'efface, puis c'est comme si on revenait dans la mer avant par rapport à ça. Mais ce qui est un peu complexe dans votre expérience à tous les deux, c'est que, bon, quand on part puis on revient, on part longtemps puis on revient, on est revenu une fois. Mais là, vous partez et revenez, et partez et revenez. Oui. Donc, c'est comme si à chaque fois, il y avait comme une nouvelle réadaptation à faire. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué que de s'ils étaient vraiment partis puis ils étaient vraiment revenus. Là, c'est un peu cet accordéon-là de va-et-vient.
Ce qui est intéressant de cette façon-là, qui n'était pas prévu au départ, c'est que sans vouloir vivre dans le futur, je sais que ça va se continuer, qu'au mois de mars, je vais repartir en ski de fond pour faire le reste de l'Ontario. Et que là, maintenant, quand je vais arriver vers le lac supérieur, je veux être là durant l'été pour pouvoir profiter du beau temps, profiter du lac, la nature. Donc, ça va être plus intéressant. Donc, au fur et à mesure que j'avance, je peux m'adapter selon les saisons, selon les conditions météorologiques pour que ça soit plus facile. Mais le temps que je suis ici pour les 5 prochains mois, j'en profite pour passer des beaux moments avec Anne, la famille et autres, ça c'est certain. Mais j'en profite pour rattacher d'autres projets alentour de ça. Donc, comme là, par exemple, je vais faire le double défi des deux Mario, qui va être la traversée du lac Saint-Jean, ce qu'ils te font du 2 au 4 février. Donc, ça, c'est un ami qui m'a invité, qui est un collègue, parce que là, j'ai eu plein de beaux partenaires. Donc, l'agence Corriveau, qui lui, est créateur de contenu pour l'agence, qui est distributeur pour MSR, puis d'autres Thermarès, pour nommer eux. Et on va partir ensemble, on va s'entraîner, parce que c'est un gars qui a beaucoup d'expérience dans le camping d'hiver. Donc, étant donné que je vais partir au mois de mars, il va falloir que je prenne l'habitude de pouvoir affronter les temps un peu plus frais et vivre un autre genre d'expérience. Mais je sais que cette expérience-là, ça va être pour un mois maximum.
Il y a une belle image que vous m'avez confiée avant l'entrevue. Vous étiez de retour à la maison. Vous avez 3 choix.
Oui. Le premier, c'est soit que je reste assis sur le divan et que je me rappelle les beaux souvenirs du passé dans mon voyage.
Oui.
Soit que je reste assis sur mon divan et que j'attends le mois de mars à vouloir repartir, ou que je me lève et que je vis mes rêves présentement et que je vive mon voyage au quotidien en m'impliquant positivement dans des actions concrètes pour avoir des moments au présent positifs et qui auront un impact sur le futur.
Donc, et vous devenez maître de vous-même, de votre destin.
Exact.
Dans ce sens-là.
C'est ça. Et parce que toutes nos actions qu'on prend maintenant, c'est les actions qu'on prend pour être heureux ici et maintenant.
Anne, est-ce qu'on a hâte de le voir partir?
oui et non. Oui, pour qu'il puisse revenir, pour qu'il puisse compléter son voyage. Non, parce que, tu sais, à chaque fois qu'il quitte, il y a y a toujours un petit une tristesse quelques jours avant qu'il parte, mais un coup qu'il est parti, ça va, mais il y a toujours ces petits ce petit moment-là.
Mais moi, il y a une chose qui me, si vous me permettez, qui me frappe oui. beaucoup, parce que ce dilemme-là d'être parti, moi j'ai bon, moi j'ai une conjointe aussi, puis quand je le plus longtemps que je suis parti, c'est peut-être 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Puis là, c'est sûr que là, c'est pas 2 ans, là. Mais je me posais la question, tu sais, par rapport à Anne, comment vous viviez ça? Puis j'ai eu la réponse, en fait, sans même vous avoir vu puis vous en avoir parlé. Il y a un de vos amis qui s'appelle Kevin Lemaire, qui est un photographe,
oui.
qui a fait une photo extraordinaire, vraiment, oui. de la première retrouvaille que vous avez eue la première fois. Cette photo-là, pour les auditeurs, elle se retrouve sur la page Facebook, pas la page Une rando avec Yannick, mais la page Facebook de Yannick.
Les deux.
Les deux? Ah, oui. OK. Mais ça, en tout cas, elle est comme facilement visible. Et juste de voir cette photo-là, je pense que ça a répondu à ma question. C'est, ah oui. c'est une photo...
Et c'est quoi la photo? Qu'est-ce qu'on
c'est
voit?
C'est les deux qui se regardent au moment où ils se retrouvent oui. après. Oui. Et ce que le photographe a su capter dans cette image-là, je pense que ça dit tout.
Oui, ça dit tout.
Mais avec les beaux yeux à ma femme, on ne peut pas avoir mieux pour une photo et de la
oh, c'est chouette, c'est beau. Elle est en noir et blanc aussi,
oui,
c'est
elle est en noir et blanc, tout à fait.
Encore plus dramatique, là,
ouais,
plus ben, intense. Oui,
tout à fait.
Oui, oui. Alors, Yannick, on a hâte de repartir, c'est ça?
Oui, j'ai très hâte pour oui. repartir, pour mieux revenir, qu'on dit.
Et ouais. puis, toujours en 2 ans, le parcours du camp, où on allonge un peu dans le temps.
Je vais dire, c'est excitant de rallonger dans le temps. Il y a quelque chose d'agréable.
C'est une belle leçon en soi.
Oui, pourquoi tout faire maintenant?
Oui, et voilà.
Puis, vous disiez, si j'ai bien compris, que vous souhaitiez revenir de l'Ouest en vélo.
Oui, ça va être un autre défi que j'aimerais beaucoup revenir en vélo.
Alors, on en parle la prochaine fois.
Oh, déjà.
Bon. Ben déjà, parce que c'est tout le temps dont nous disposons. Michel, merci beaucoup d'avoir participé à la conversation. Yannick, évidemment, merci d'être passé encore
merci
une
à
fois.
Vous deux.
Et Anne, merci de cette grande première à la radio.
Ben c'est merci, plus chouette. Merci à vous.
Alors, à vous trois, merci et à bientôt.
Au plaisir.
Alors, chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Vous pouvez également y laisser suggestions et commentaires à propos de cette émission. Merci beaucoup à nos invités, Yannick Proulx et sa conjointe Anne, de même qu'à notre chroniqueur et collaborateur Michel O'Neill, le serein pèlerin des ondes. Merci également à notre vaillant technicien, toujours souriant et sympathique, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec ce proverbe zen. Quand tu as atteint le sommet de la montagne, continue à monter. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.